Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait ?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur ?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, nous y voilà, une nouvelle saison de Cinérama qui débute. Alors nous sommes évidemment ravis de vous retrouver après un été partiellement passé dans les salles, un détour vers le Festival de Cannes, marqué par une édition un peu terne mais exaltante hein, par sa palme. Alors au fil de cette saison, on retrouvera des chroniques mais aussi des blind tests sonores. Alors exception hein, pour aujourd'hui, puisqu'on préfère vous faire écouter une interview de Emma Benestan, la réalisatrice de Fragile, belle rom-com française en salle depuis le 25 août. Et c'est Marine qui nous en dira que du bien. Bonjour messieurs, vous, c'est un autre programme.
Bonjour.
Bonjour.
Toi Manu, c'est le
France
dernier Bruno Dumont.
France de Bruno Dumont, avec à mon sens une extraordinaire Léa Seydoux. Je le dis parce que je ne l'ai jamais pensé jusque-là.
Révélation. Donc ça nous vient de Cannes. Et toi Guillaume, c'est un film américain.
C'est ça, au cœur de la mémoire. C'est Réminiscence de Lisa Joy avec Hugh Jackman, bah lui toujours constant.
Et puis moi, je vous parlerai de La Terre des Hommes de Naël Marandin, une immersion chez des éleveurs en Bourgogne. Mais on débute avec cette pauvre Léa Seydoux. Hein. Je l'ai vue dans 3 films à Cannes, elle était dans 4 finalement, et n'a pas pu être présente au festival pour cause de Covid. Elle incarne France, une journaliste qui flirte avec le spectacle dans le film éponyme de Bruno Dumont. Et c'est toi qui nous en parles, Manu.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
C'est incroyable comme les gens t'aiment. T'es la plus grande journaliste de France. France.
Plutôt fraîchement accueilli à Cannes, hein, le nouveau film de Bruno Dumont hein, n'est pas ce qu'il prétend être. Alors non pas qu'il avance masqué, hein, dévoilant au fur et à mesure son ambition, mais plutôt qu'il met à rude épreuve le spectateur dans l'attente d'un énième jeu de massacre sur le milieu ultra-médiatisé des journalistes télé. Or, il ne s'agit pas uniquement d'une critique de la société du spectacle perçue à travers le prisme de figures caricaturées et ou moquées. Cette dimension n'est pas absente, hein, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est aussi la faiblesse toute relative de France, un magistral mélodrame conviant à la fois Douglas Sirk et Jean-Luc Godard. Parfois vendu comme une comédie corrosive, le film n'est pas drôle, ni jouissif dans son attaque populiste de certaines institutions. La satire du grand cirque médiatique est au contraire triste et morose, au point d'en devenir gênante, voire dérangeante. Alors seule Blanche Gardin, assez insupportable à mon avis, hein, assène l'illusion de jouer dans une comédie. Sa calamiteuse prestation est tellement décalée qu'elle donne l'impression de s'être trompée de film. En dépit de ce faux pas, hein, France s'impose néanmoins comme le film français de l'année, peut-être pas le plus abouti, mais le plus risqué. Portrait saisissant d'une journaliste ambitieuse et ambiguë, pris dans la tourmente de la laideur du monde. Cette journaliste, hein, c'est France Demeure, star incontournable du petit écran, à la fois présentatrice et reporter d'investigation. Elle est de tous les combats, une superwoman hein, en surface, pensant maîtriser l'image qu'elle donne à son public. Elle croit en sa mission tout en éprouvant aucune honte à manipuler des images, à mettre en scène de façon impudique les horreurs du monde et distordre la réalité. Sa vie privée, alors cliché dont s'empare Dumont à la manière d'un Brissot, est en revanche un désastre. Elle vit avec un écrivain raté et leur fils qui n'a pas beaucoup de considération pour sa mère souvent absente. L'allégorie d'évoquer la France qui se meurt à travers le personnage éponyme est une belle idée hein, mais reste trop théorique pour satisfaire pleinement. Dumont force le trait consciemment car le véritable film est ailleurs.
Coupé !
J'ai l'impression d'avoir une mission.
Génial ! Talent qu'elle a cette fille.
Vous savez tout, c'était formidable.
Formidable ? C'était formidable de pas mourir ?
Vous les journalistes, on change rapport. Vous courez après l'audimat.
Et donc ?
Alors vos leçons de morale, vous les gardez pour vous, les vôtres et vos idiots utiles.
Ça va aller ma puce, on va aller chez Dior pour choisir les bijoux et la robe.
Déjà, contrairement à ce qu'une partie de la presse affirme, France n'a rien d'un être détestable. Je parle du personnage, pas du film, évidemment. Au contraire, Bruno Dumont, peut-être pour la première fois de sa carrière, se laisse emporter par la fascination d'un personnage qu'il regarde sous toutes les coutures. Il fallait une actrice de haut vol pour incarner idéalement cette France qui passe par toutes les phases émotionnelles existantes et dessine réellement l'ossature du film. Alors Léa Seydoux, hein, une fois n'est pas coutume, est absolument divine. Elle est quasiment de tous les plans. Sans jamais minauder ou grimacer, elle déploie une gamme d'expressions expressions sidérantes à l'image de son extravagante garde-robe, hein, passant des rires aux larmes dans un même plan avec une aisance indécente. Alors dans un registre similaire, hein, seul Virginie Efira, étrangement, dans Benedetta, pour un rôle pas si éloigné mais moins complexe, pourrait éventuellement la concurrencer. Alors d'un personnage que l'on aimerait facilement haïr dès les premières images, elle a créé, avec l'aide de son metteur en scène, une figure haute en couleur, bah, qui rappelle en fait certaines grandes héroïnes des romans du 19e siècle, à commencer par Maupassant. Alors France est avant tout un miroir à peine déformé de la société contemporaine, un regard impitoyable sur le gel des sentiments de l'ultra-moderne solitude du monde actuel. Alors l'univers fabriqué de la télévision est le reflet hyperbolique de ce que la plupart des gens subissent au quotidien. Ce roman photo en trompe-l'œil traite de l'aliénation, de notre rapport intime avec le travail, qui passe par la résistance, l'acceptation, l'obscénité, l'imposture. Alors aucun cynisme ne jaillit du film, au contraire, une profonde empathie envers son personnage qui représente de façon, on va dire, hypertrophiée ce que la plupart des individus font pour exister. Dumont ne filme pas l'ascension et la chute d'une icône de la petite lucarne, mais toutes les phases qui parcourent le psychisme d'un individu à la tâche, de sa déshumanisation progressive à la dépression, jusqu'à la résignation impitoyable d'accepter le monde tel qu'il est. Non seulement on ne peut pas le changer, mais en plus, on participe à sa lente déchéance. Alors bouleversant, d'une noirceur inouïe, à peine tempérée par des effets à l'eau de rose un peu déstabilisants, Bruno Dumont signe sans doute son film le plus accessible en termes de narration depuis La vie de Jésus, et l'un des plus audacieux sur le plan formel. La mise en scène souffle le souffle chaud et le froid, ce parfois dans le même plan, alliant épure et kitsch, trivialité et sacrée, avec un sens du romanesque inoubliable. Enfin bref, moi j'ai trouvé que c'était un très grand film. Alors j'ai rien dit sur... J'aime beaucoup aussi la musique de Christophe, qui n'est pas envahissante et que je trouve très très bien utilisée dans le film.
Je ne supporte plus le regard des gens.
Les gens vont te détester, puis t'adorer, c'est la même chose.
Je ne supporte plus mon mari.
C'est pas ton argent, c'est notre argent.
Je gagne 5 fois plus que toi.
Ça explose.
Putain, mais merde, mais...
C'est génial.
Tout ce théâtre est con.
C'est ça la matière des icônes. Elles sont faites de boue.
J'en crevais de ce métier, tu sais.
Elle pleure la France maintenant.
Cette célébrité s'y démonte.
C'est ça la télé, crois-moi, c'est comme ça que ça marche. Le pire, c'est le mieux.
Nous parlions donc de France, film de Bruno Dumont qui était en compétition à Cannes. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, hein, sur Blanche Gardin. Alors, le personnage est épouvantable, je pense qu'il a été écrit comme ça. Alors après, Blanche Gardin certainement en rajoute, mais c'est le personnage qui représente le pire de la télévision. Enfin, c'est-à-dire que voilà, c'est complètement décomplexé, quoi.
Ah oui, non mais c'est sûr, mais je suis pas du tout convaincu par la manière dont elle le joue, en fait. Et déjà, en plus, ce que je pense, c'est que c'est pas le meilleur du film. C'est-à-dire que cette critique un peu des médias, de la télé, je crois pas que c'est pas le sujet, finalement, au fond.
Oui, puis c'est
film.
Un peu facile, finalement. Oui, enfin, puis on apprend rien.
Il prend ce sujet-là en apparence et puis il traite d'autres choses derrière. Et c'est souvent, d'ailleurs, ce que fait Dumont. Quand il fait un film policier avec l'humanité, il fait pas un film policier. Il va traiter autre chose derrière. Évidemment, il va parler de l'humanité. Mais là encore, je pense qu'une nouvelle fois, il parle de l'humanité.
En tout cas, Léa Seydoux, qui effectivement réalise une belle prestation, hein, dans France et puis dans un autre film présent à Cannes. Donc elle était présente dans 4 films, mais elle n'a pas eu le prix d'interprétation. Et c'est pas faux d'avoir essayé. France de Bruno Dumont est en salle depuis le 25 août, tout comme La Terre des Hommes. Parler du viol tout en parlant d'une femme qui tente de se faire une place dans un univers d'hommes, celui des éleveurs de Bourgogne, eh bien c'est le pari de La Terre des Hommes, donc de Naël Marandin.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
Oui, oh, ça va là ?
Au nom de la Terre, Petit Paysan, ou plus récemment encore La Nuée, le monde paysan s'invite au cinéma avec des réalisateurs qui auscultent un univers que Raymond Depardon, avec sa trilogie Profil Paysan, avait pris le temps de capter. La fiction permet d'ajouter une autre dimension, la preuve avec La Terre des Hommes, hein, qui s'intéresse à un personnage féminin dans la filière de l'élevage. Ce film du français Naël Marandin s'attache à suivre Constance, la fille d'un agriculteur, interprétée par Olivier Gourmet, qui veut reprendre la ferme aux côtés de son futur mari, joué par Finnegan Oldfield. Il s'agit de sauver l'exploitation familiale de la faillite, et ça tombe bien car le père ne veut pas autre chose.
Tu connais notre situation. La ferme de mon père va être saisie. On voudrait la reprendre avec Bruno, mais on a besoin d'aide. Tu vas où ?
Bosser.
Qu'est-ce qui se passe ?
Liquidation judiciaire.
Cette terre, c'est chez moi. Elle sortira pas de la famille. Allez, pars-toi maintenant.
Je vais me tirer dessus.
Alors seulement pour éviter le redressement judiciaire et la vente de la ferme, eh bien il faut présenter un projet valable, nourri par des investissements. Alors malgré son jeune âge, Constance pense qu'elle tient le bon bout en favorisant la qualité bio au détriment de la quantité de bétail engraissé à tout va. Et pour cela, il lui faut le soutien des autres exploitants. Elle parvient à convaincre le responsable de l'organisme qui va lui permettre, pense-t-elle, d'obtenir le feu vert.
Il faut que tu montes un dossier solide. Et si tu me l'envoies, moi je vais bien regarder.
C'est vrai, tu serais d'accord ?
Le numéro 3.
Sylvain me dit beaucoup de bien de vous. Vous pouvez compter sur mon soutien.
Merci.
Mais de rien, tu le mérites.
Mais cet homme, Sylvain, on l'entend interprété par Jalil Lesper, va abuser de sa position dominante et obtenir des relations sexuelles non consenties. Alors le film n'est plus l'observation du monde de l'élevage avec ses codes, hein, comme le quotidien des bêtes à nourrir ou du bétail qui passe à la salle de vente, mais La Terre des Hommes devient aussi l'observation d'une société où la domination masculine est bien présente. Sylvain n'est pas un violeur impénitent, hein, Constance est sûrement sa première victime, mais il profite simplement de son rang, de sa position politique pour imposer ses désirs sans se soucier du refus. Alors à ce titre, la première séquence du film est métaphorique. On est plongé dans un marché aux bestiaux où il y a deux femmes. Seulement deux femmes, Constance et la secrétaire. Tout le reste de l'assemblée est composé d'hommes. Alors tous les ingrédients sont là. La domination masculine, la pression financière, l'éleveur se demandant par exemple à ce marché aux bestiaux à combien il peut céder sa viande, et puis eh bien une bonne dose de politique.
Ce sera votre parole contre la sienne. Vos proches vont être interrogés. Ça va durer longtemps. Hein.
Je sais pas à quoi ça sert de se battre là si tout le monde est contre nous.
Qu'est-ce qui s'est passé chez Monsieur Rousseau ?
Mais qu'est-ce qui s'est passé chez moi ? Bah vas-y, dis-lui, qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est pas ce que tu crois, je te jure.
C'est quoi alors ?
Constance ! Constance !
Si c'était vrai, tu m'en aurais parlé, non ?
Attends, tu crois que j'invente là ?
T'as pensé à sa famille, sa femme, ses gosses.
Tu vas pas m'accuser moi aussi ?
Lâche-moi !
60 euros ! Qui dit mieux ? Allez, 70 !
C'est pas un monde pour vous, vous voyez bien.
Allez. Je vous emmerde.
Noël Marandin ne commet aucune faute, il ne condamne pas Sylvain le violeur mais ne l'absout jamais. Il décrit parfaitement ce qui peut conduire dans certains cas une femme à céder à la pression masculine. Les chiffres du viol sont éloquents. Une femme sur sept admet avoir, au cours de sa vie, au moins une fois avoir vécu une forme d'agression sexuelle. Il ne faut pas imaginer que cette agression est nécessairement violente. Comme il est montré dans La Terre des Hommes, ces agressions s'inscrivent dans des rapports de pouvoir et de domination plus larges. Nous sommes face à la fragilité du consentement. Le sujet est d'actualité dans cette période post-MeToo. Et le restera encore quelques années. Alors d'abord prostrée, Constance va petit à petit décider de se battre, de se relever, non sans difficulté, car il lui faudra compter ses soutiens. Alors ce n'est pas tant sur le terrain judiciaire qui ne lui donnerait pas forcément raison que la jeune femme va obtenir réparation. En cela, le réalisateur montre bien que le système judiciaire est peu adapté. Non, c'est sur le terrain politique que Constance va se rendre pour anéantir son agresseur. Tout en fragilité, Diane Rouxel, qui face aux bêtes ne faillit jamais, eh bien, se montre touchante quand elle acquiesce sans comprendre pourquoi. La mise en scène est solide, sans esbrouf. Le réalisateur suit ses protagonistes dans leur univers. Il ne commet jamais la faute de laisser poindre un jugement moral et s'en tient aux explications en exploitant aussi les non-dits, ce qui suppose un jeu d'acteur impeccable. Et de ce point de vue-là, le casting est absolument réussi.
Tu voulais jouer ? Ah, ça y est, on y est.
La Terre des Hommes de Naël Marandin est en salle depuis le 25 août, tout comme Fragile d'Emma Benestan, une rom-com où l'homme aurait un autre rôle que celui du dominant et puis la femme n'attendrait rien. Eh bien, c'est le pari d'Emma Benestan qui a tourné son film à 7 dans la douceur de l'été indien. C'est l'interview de cette émission, mais avant d'entendre la réalisatrice, on écoute Marine nous parler de ce premier film réussi.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Az est ostréiculteur au port de Sète. C'est un jeune homme romantique, attentionné, qui aime faire la cuisine, qui pleure devant des films quand il est triste et qui a un jour la mauvaise idée de demander la main de sa petite amie, une comédienne en pleine ascension, grâce aux séries qui se tournent dans la ville que l'on appelle la Venise du Languedoc. Non seulement celle-ci refuse, mais elle lui annonce également qu'elle veut le quitter et Az se retrouve seul avec son chagrin d'amour. Ou plutôt, pas si seul que cela, car si Fragile parle d'amour, il parle autant d'amitié. Az va pouvoir compter sur Lila, son amie d'enfance, devenue prof de danse, qui va lui enseigner une chorégraphie imparable pour reconquérir son ex.
J'ai le droit
d'être un homme et d'être quelqu'un de bien, en fait.
Dans ce premier long métrage, la jeune réalisatrice Emma Benestan s'empare du vaste sujet de la fragilité masculine. Avec tendresse, intelligence et humour, elle prend ainsi à bras le corps les codes de la comédie romantique et du film de danse pour mieux les détourner et questionner les normes de la société qui voudraient opposer la virilité masculine d'un côté à la fragilité féminine de l'autre. Tout cela sous couvert de feel-good movies solaires et dansants. Fragile est un film qui appelle très subtilement à déconstruire ces normes encore vivaces, et cette déconstruction est déjà présente dans la façon dont la réalisatrice filme son personnage masculin. La sensibilité du personnage principal n'est jamais moquée, jamais tournée en ridicule. À l'inverse, le personnage féminin, interprété par Oulaya Amamra, est une jeune femme très affirmée qui n'attend vraiment pas d'être sauvée. Le casting du film, d'une façon générale, est l'une de ses forces, tous les comédiens ayant un charisme et un naturel indéniable, sans oublier le personnage principal bien qu'en retrait du film, la ville de Sète. En alternant les plans larges et les plans serrés sur les visages de ces personnages en plein été indien, la réalisatrice, qui a d'ailleurs été monteuse pour Abdelatif Kechiche, réussit là où Make To My Love échouait un peu à force de se focaliser sur les fesses de ses protagonistes, capturer l'essence d'une jeunesse sétoise, capturer la lumière de la ville et de ses habitants.
Capturer la lumière de la ville, c'est vrai que Emma Benestan le fait merveilleusement bien pour ceux qui connaissent cette, pas seulement au travers de la série Demain nous appartient. Elle place en fait ces personnages toujours proches de l'eau. Enfin, c'est quelque chose, c'est l'univers qui est très bien représenté à l'écran. Nous écoutons Emma Benestan.
Est-ce que tu veux devenir ma femme?
Oui, j'ai compris.
Oui?
Ah, le soulagement, putain!
Non, non, j'ai dit oui, j'ai compris, mais pas à ta première question.
Je voulais un feel good, dans le bon sens, un feel good, mais pas. Enfin, intelligent. Mais il y a des films qui font du bien, mais on se dit, ouais, quand même, c'était. Moi, j'ai revu Pretty Woman, j'ai eu peur, quoi. Je me suis dit, waouh, j'ai vraiment trouvé ça feel good. Moi, le moment climax, c'est quand même quand elle a la carte de crédit, ouais, et qu'elle fait des achats. Enfin, je me dis, waouh.
T'as tout bien fait, comme je t'ai dit. Le ménage, ton linge propre, la vaisselle.
Est-ce que je peux chialer tranquillement, s'il vous plaît?
Ah non, tu peux être tranquille, mais tu peux pas chialer, rien.
C'est bien, maintenant, il est de retour avec nous, mon ref, ça fait du bien.
C'est vrai que tu nous avais un peu oublié, quoi.
Vraiment, vous avez une meuf, vous désertez aussi, je pense. Ouais. Toi, le premier, toi, tu changes de pays, mais.
Est-ce qu'on pourrait faire une rom-com au masculin et au féminin en même temps? Non, mais et en fait, je m'interrogeais pas mal parce que, à part Notting Hill, il y a quand même peu de rom-com où le personnage masculin n'est pas déjà dans un statut social ultra supérieur et très narcissique ou très dans le powerful man habituel et qui est sur la sensibilité, quoi. Enfin, il y en a quelques-unes forcément, mais c'est vrai que Notting Hill ou comme 4 mariages d'enterrement. Plus des comédies à l'anglaise que j'aime beaucoup. Et actuellement, je me disais que... on a commencé à l'écrire il y a deux ans et demi avec Nour Ben Salem, la co-scénariste. On voulait vraiment essayer de proposer une autre vision de la rom-com où, du coup, c'est pas une fille qui court après un garçon en rencontre un autre, mais c'est un peu l'inverse, quoi. C'est effectivement un homme et pour qui le sens de sa vie, c'est sa copine, ce qui est pas rien, parce que d'habitude, c'est vraiment les femmes qu'on met là-dedans. Et de quoi il va se rendre compte et sur quoi il a travaillé et quelle est la part de au-delà du rapport masculin-féminin, la part de l'autre qu'on a envie d'avoir, qui est plus dans le prendre soin. Ça, c'est un truc qu'on met beaucoup chez les femmes.
S'il vous plaît, faites gaffe ce soir. Parlez bien.
Tiens, qui dit que nous, on jouit pas de capacité d'adaptation extraordinaire?
Parlez juste français, c'est tout.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas des Français, nous?
Bah, déjà, tes collègues, on se fait un concours d'éloquence contre eux, on les met tous au tapin. Voilà. On leur sort des expressions du Moyen-Âge et d'antan encore, et ils seront chauves. Attire l'arigot, on en sort.
Déjà 10.
Notre français, certes, il est remixé, mais il est châtié et de haute voltige. T'es un petit enculé. C'est tout ce que t'es. T'as beau être un acteur, je t'encule.
C'est vrai que quand on écrit un scénario, on essaie de maximum de se dire quel personnage, comment il parle, quelle est son identité langagière, quoi. Parce qu'on en a tous une, en fait. Moi, j'en ai une, vous en avez chacun. Et aussi, en fonction du contexte, on en a une. En fonction de, on est sur un plateau, là, on est dans une interview. Enfin, on a une façon de parler différente. Et je trouve qu'elle dit beaucoup de nous. Mais c'est vrai que quand on écrit, tous les personnages, souvent, parlent un peu de la même manière et de la même manière que le réalisateur. Et c'est pour ça que, enfin, en tout cas, moi, j'ai un peu du mal dans certains films où je sens que c'est toujours un peu la... Je sens le discours dans le dialogue parce que je sens pas assez la singularité du personnage dans la façon de parler. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore dans les vieux films, comme les films de Pagnol, par exemple.
C'est quoi ces histoires-là que, soi-disant, tu trémousses comme un illuminé de Bavière au milieu de la chaussée, là, que t'es plein de mouvements suggestifs Il me dit, tu gigotes comme un verre de terre sous extra. Ouais. Il me dit, ouais, il y a des limites. Allez, on franchit pas.
Ouais, ne fais pas ça.
Moi, au-delà de certaines extrémités, je réponds plus de rien.
C'est les potes de la danse là, qui veulent ton Insta. Marina m'a dit, ouais, je suis sûre que c'est un bon coup. Et t'es quand t'as vu moi,
Mais pourquoi nous, on bénéficierait pas de leçons de danse
très,
comme
très
ça.
Bonne idée.
Ouais. En soirée, il y a un truc un peu où on se dit, les mecs qui se disent, on va être ridicule, non, je vais pas danser, puis ça fait juste ça, comme ça. Et on se dit, bon, ok. Et puis après, c'est toujours pareil. Je pense que ça vient de milliards de petites choses qu'on se raconte, des films qu'on aime bien. Moi, j'adore Billy Wilder, j'adore Billy Elliot, pour le coup, il y a beaucoup de Billy, mais Full Monty. En fait, moi, c'est un mélange de plein. Après, il y a plein de... Je pense de clin d'œil dans le film à des comédies que j'aime. Donc c'est peut-être même un pastiche de plein de... Il y a le porté Dirty Dancing, il y a l'espèce d'essayage à la Pretty Woman qui est un peu complètement inversé, ou dans le 4 mariages et un enterrement, il y a cet essayage-là que j'avais envie de refaire. Et dans cette idée de danse, je trouve qu'il y a, bah, il y a la sensualité, mais il y a du coup quelque chose... j'ai l'impression qu'en tout cas, quand les garçons que j'interroge se disent « je vais pas danser », j'ai l'impression qu'il y a une peur du ridicule et presque si c'était associé à quelque chose de féminin.
Très bien, je vais y arriver, t'arrives ouais. Chez elle, détendue.
Ouais, je lui dis okay. « Salut, ça va ?»
Non, tu dis « je vais récupérer mes affaires ».
Je vais récupérer mes affaires.
Non, déterminé.
Je vais récupérer mes affaires.
C'est tes affaires.
C'est mes affaires.
C'est tes affaires.
C'est à moi.
Le truc des couleurs et de cet horizon, de cette mer, toujours pareil, la Méditerranée, l'appel au voyage, je pense que c'est très inconscient, mais c'est quelque chose à la fois, je crois, dans l'envie de gamme colorimétrique avec le chef opérateur ou d'envie de couleurs et de ce que ramène la mer qui est quand même... Le bleu va refroidir des choses très fortes, très chaudes et très... Et c'est vrai que moi, la mer fait partie de mon paysage. Le premier film que j'ai fait s'appelait Toucher l'horizon et je pense qu'il y a vraiment un côté de vouloir un peu d'horizon et de vouloir... Et moi, j'aime bien cette idée d'île qu'est cette presqu'île, en tout cas, ce côté où on est toujours entouré, effectivement, d'eau. Et surtout, enfin, j'ai voulu filer la métaphore de l'huître. Et pour moi, c'était important, cette idée de l'élément naturel qui immerge le territoire et où je voulais faire une petite métaphore, parce qu'il y a cette fameuse phrase qu'on dit souvent en rigolant, genre « les femmes, c'est comme les huîtres, t'en ouvres plein, puis tu tombes sur la perle », et je voulais m'amuser et essayer de prendre le contre-pied de ça, et me dire à un moment, et quand j'ai fait mes recherches, et je me disais « de la huître est hermaphrodite », je me disais « mais c'est dingue, en fait, elle est ni femme ni homme, et puis le chagrin, c'est complètement hermaphrodite, un chagrin dans un certain sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On est tous touchés par des chagrins d'amour, par la fragilité à des moments de notre vie. Et tout ça, et du coup, rappeler l'huître à plein de moments du film, comme rappeler l'eau qui est présente et qui est, voilà, l'univers de l'huître, c'était, je pense, assez inconscient à plein d'endroits, mais c'était voulu, je pense, du coup, dans cette idée.
C'est quand la prochaine fois que tu peux la voir?
Ouais, il m'a invité à sa soirée, le producteur. Hein.
Bah, c'est parfait,
ça. Je vais pas y aller.
Tu vas y aller, tu vas danser pour elle.
Faites gaffe ce soir, parlez bien.
Déjà, tes collègues, on se fait un concours d'éloquence contre on les met tous au tapin.
Écoute, y'a pas de frérot, t'es pas au quartier.
C'était Emma Benestan pour le film Fragile. C'est son premier film. C'est une rom-com très réussie qu'on vous propose de voir. Ce film est en salle depuis le 25 août, tout comme Réminiscence. On savait que Christopher Nolan pouvait nous embarquer plus de 2 heures dans des histoires à plusieurs tiroirs. Il faudra maintenant compter sur Lisa Joy, la créatrice de la série Westworld, avec Réminiscence, film d'anticipation dans lequel on revit ses souvenirs. Et c'est toi, Guillaume, qui nous en parle.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Vous allez faire un voyage. Un voyage dans votre mémoire. Il vous suffit de suivre ma voix.
si le nom de Lisa Joy ne vous rappelle rien, bon, ce qui est embêtant hein, pour un film qui s'appelle Réminiscence, hein, c'est parce qu'avant d'embrasser le grand écran, elle a d'abord brillé sur le petit, mais dans l'ombre imposante de son compagnon. Alors, elle a beau avoir été la co-créatrice hein, de la série Westworld, inspirée du film éponyme de Michael Crichton, hein, Monde Ouest, chez nous, les gens ont surtout retenu le nom prestigieux de l'autre showrunner, hein, donc Jonathan Nolan, frère de qui vous savez. Toujours à la production, Jonathan Nolan laisse cette fois sa compagne s'exprimer pleinement en lui laissant l'écriture du scénario et la réalisation, tout en conviant quand même quelques autres noms de Westworld. On y retrouve le même directeur de la photographie, Paul Cameron, le même monteur, Mark Yoshikawa, et le même compositeur, Ramin Djawadi. Pour les habitués, la continuité est ainsi assurée, même si on peut reprocher le caractère propre et mais lisse inhérent à ce genre d'esthétique, de l'image quelque peu désaturée à la musique lénifiante composée de nappes et d'ambiances pas vraiment mémorables, ben surtout pour un tel sujet.
Elle a tourné la page, fait la même chose.
Personne ne disparaît comme ça.
Pour savoir où elle était partie, je devais savoir d'où elle venait.
De quoi s'agit-il donc ? Dans un futur proche, Miami a été submergé par les flots suite aux effets du changement climatique. Un enquêteur privé, hein, Nick, joué par Hugh Jackman, est engagé par des clients afin de retrouver leurs précieux souvenirs grâce à une machine qui permet de remonter le fil de la mémoire. Ce commerce qu'il tient avec Watts, joué par Tandy Newton, n'est pas au mieux de sa forme, mais tient le coup grâce à leur professionnalisme. Au cours de sa dernière enquête, il tombe éperdument amoureux de sa cliente, Mae, jouée par Rebecca Ferguson. À sa disparition, le détective est désemparé et se lance à sa recherche. Il se retrouve alors perdu dans une boucle temporelle mémorielle et découvre des aspects de la personnalité de Mae qu'il ne connaissait pas auparavant. Mais comme dans toute bonne intrigue policière tortueuse, il ne faut jamais se fier aux apparences, surtout lorsque l'enquête en question va impliquer un mania de l'immobilier qui a fait fortune sur le dos des pauvres et ses mœurs quelque peu délétères.
Fuyait-elle son passé ? Ou courait-elle vers lui ?
Tu savais vraiment d'elle? T'as vraiment cherché?
Qui était-elle quand elle n'était pas avec moi? T'es sûr que tu veux des réponses? Ça m'étonnerait. Où est-elle?
Où est-elle?
On le voit, Réminiscence ne se sert de l'argument de science-fiction que comme d'un point de départ pour mieux explorer ses thématiques. Au cœur de l'intrigue, Lisa Joy s'intéresse particulièrement aux souvenirs, au passé et à notre manière de concevoir l'avenir à travers leur prisme. Les réminiscences d'un âge révolu sont-elles positives ou négatives ? À quel point peut-on s'attacher à ce qu'il n'est plus, à sans en souffrir et sans freiner notre progression dans la vie ? Ces intéressantes interrogations sont illustrées différemment par les principaux personnages. Celui de Hugh Jackman, ancien militaire ayant vécu en première ligne l'horreur de l'effondrement du monde d'avant la catastrophe écologique, cherchait à oublier tout ce qui avait trait au passé avant que la disparition de Mae ne le force à s'enfermer dans une boucle psychologique destructrice. Celui de Tandy Newton, malgré sa lutte contre l'alcoolisme, qui est une autre manière d'oublier, tente coûte que coûte d'aller de l'avant et de se dire que le futur ne pourrait être que meilleur. Le dilemme que va rencontrer Hugh Jackman, à savoir devoir revivre des événements intimes passés pour mieux reconstituer le puzzle du mystère de la disparition de Mae, va amener à une modification de ce présent qui cachait un secret bien sombre. Rappelons qu'un souvenir, c'est aussi une manière de se mentir. On voudrait enjoliver le passé et se dire que c'était forcément mieux avant, mais la réalité est toujours plus complexe que ça. Comme le dit son personnage, rien n'est plus addictif que le passé. Et même si cette phrase semble faire une belle pique à la vague actuelle de nostalgie dans l'industrie du loisir qui ne semble plus pouvoir en finir, c'est là que le film de Lisa Joy patauge un peu. Même si elle est très soignée et agréable pour les yeux, le choix d'une direction artistique lorgnant sans détour vers le rétro et le film noir interroge sur la pertinence du fond de cette histoire. Le principal méchant s'appelle Booth, comme l'assassin de Lincoln, et on a l'impression de voir Philip Marlowe évoluer dans un Minority Report qui aurait lieu dans la ville de Dark City. La confrontation avec les thématiques actuelles, comme le réchauffement climatique qui entraîne une hausse dramatique des eaux et dont un clivage encore plus prononcé entre nantis et pauvres, s'en retrouve un peu noyé, donc superflu. Cela n'empêche pas de voir un très bon et agréable thriller noir qui ne surprendra pas grand monde, si vous avez déjà vu des films de ce genre, mais qui a le mérite d'être franchement bien mené. Cependant, que les fans des Nolan ne s'y trompent pas, Réminiscence est bien plus proche d'une construction intériorisée comme celle de Passé virtuel de Joseph Ruznak. C'est un film qui avait pâti de l'énorme succès sur un thème un peu similaire à de Matrix, que celle d'Inception du beau-frère Christopher.
Réminiscence, terminée eh bien les chroniques de films qu'on a plutôt appréciés aujourd'hui dans cette émission Cinérama.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Mais pour quelle raison?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon?
Qu'est-ce que vous racontez?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est difficile de répondre,
comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie!
Cette première émission est maintenant terminée. La semaine prochaine, on se retrouve avec un excellent film. Pour moi, c'était un des meilleurs de Cannes, si ce n'est le meilleur, le film de Mathieu Amalric, Serre-moi fort. Puis Marine nous parlera de La Nuit des Rois. Et quant à toi, Guillaume ?
Moi, de l'horreur avec le dernier James Wan, Malignan ou Malignan, je ne sais pas comment il faut prononcer.
Eh bien, on fera des recherches à ce niveau-là. À la semaine prochaine.